Session de théologie sur Marie Arimon le 22 avril 1994. Deuxième conférence par le Père Samuel.
Passe le regard de Jésus sur la Vierge Marie. Et on le revoit dans le prologue de Saint Jean, hein, quand il dit « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. » Plus l'évangile avance et plus on perçoit qu'à l'intérieur des proches du Christ, Marie et Joseph sont presque les seuls manifestement à l'accueillir vraiment pour ce qu'il est. Alors, on ne sait rien, hein, de l'enfance de Jésus. Les apocryphes sont très prolixes là-dessus, mais les évangiles ne disent pas grand-chose. Mais on voit bien que, j'allais dire, la grandeur de Marie est précisément dans le fait que bien que Jésus soit son enfant, il est pleinement accueilli dans son mystère. Alors moi, je rêverais de quelqu'un qui travaille sur Nazareth, parce qu'il devait y avoir une ambiance assez particulière à Nazareth. Parce que la famille de Joseph, elle était de Nazareth. Et quand Nathanaël dit de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon, c'est sans doute qu'à Nazareth, ça devait être assez particulier dans l'ambiance. Et on voit bien que j'allais dire, Marie joue un rôle est regardée par Jésus comme celle qui l'accueille. Et comme celle qui accueille, on va le revoir, sa parole, et qui accueille à son égard à lui, on va le revoir dans Saint-Luc, la volonté du Père. On sait bien que la plus grande difficulté du maire, c'est de vouloir ce que Dieu veut à propos de son enfant. En désirant secrètement que Dieu veuille ce qu'elle veut. Et Marie semble louée par Jésus par le fait qu'elle veuille vraiment ce que Dieu veut. C'est Françoise Dolto, je crois, qui explique que Marie a de l'ambition pour Jésus. Enfin, quand on lit l'Évangile, c'est très amusant à lire après ça comme détente, ce genre de choses. Alors, on va regarder rapidement dans Saint Marc. Marc 3, 31-35. Et viennent, donc c'est le passage parallèle, hein. Et viennent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Et une foule était assise autour de lui. Et l'on lui dit, voici ta mère et tes frères et tes sœurs dehors qui te cherchent. Et leur répondant, il dit, « Qui est ma mère et mes frères ?» Et promenant ses regards sur ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » puis il y a un autre passage, alors je ne sais plus si c'est dans Saint-Marc ou dans Saint-Luc, où il y a cette femme qui se lève au milieu de la foule. C'est dans Saint-Luc, hein, et qui fait l'éloge de sa mère. Donc Marc parle très peu, hein, de... C'est le seul moment où il est fait allusion à Marie. Donc Saint-Luc. Vous voyez que la manière dont Saint-Luc aborde les choses est très différente de Matthieu. Pourquoi ? Parce qu'il met en parallèle, alors ça le Père Laurentin l'a beaucoup montré, le Père Laurentin a beaucoup travaillé, hein, sur ses évangiles de l'enfance et sur la place. Il a écrit, avant qu'il écrit ses évangiles de l'enfance, il a un petit livre qui s'appelle « Court traité de théologie mariale ». Très bien fait sur ce sujet. Et il n'a pas dit grand-chose de plus dans ces gros livres-là. Il montre mieux, il justifie exégétiquement de manière plus serrée, mais tout était déjà dans le petit. Donc, Luc met en parallèle de manière évidente l'annonciation faite à Zacharie et l'annonciation faite à Marie. L'annonciation faite à Zacharie, c'est l'annonciation qui est faite à la manière de l'Ancienne Alliance et qui est accueillie à la manière de l'Ancienne Alliance. Zacharie et Élisabeth sont des justes, mais ce sont des justes de l'Ancienne Alliance. Et c'est pour ça que c'est extrêmement riche, hein. Non seulement l'annonciation est déjà un texte extrêmement riche, mais quand on le met en parallèle et en contraste avec l'annonciation faite à Zacharie, il est doublement riche. Parce que c'est leur contraste qui nous révèle la richesse de l'attitude de Marie. Et toute la différence, donc vous voyez, Luc va d'abord marquer la différence entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance, pas d'abord la continuité. Et Luc ne nous manifeste pas d'abord Marie comme fille d'Israël. Le rapport est inverse, si vous voulez. Marie n'est pas d'abord dans Israël, elle est l'achèvement d'Israël. Et elle est, c'est ce qui est très particulier à Luc, elle est l'achèvement d'Israël dans sa personne. Ou si vous voulez, tout Israël n'a été là que pour former Marie. Le sixième mois, l'ange Gabriel, donc 1 verset 26. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de Marie, et le nom de la vierge était Marie. Pardon, de la maison de David, et le nom de la Vierge était Marie. Quand on voit, hein, le texte en grec, c'est effectivement extrêmement impressionnant parce que cette grande phrase, hein, qui commence par l'ange Gabriel envoyé par Dieu, s'achève à Marie. Le dernier mot, c'est Marie. Je veux dire, elle est regardée elle est regardée pour ce qu'elle est dans sa personne humaine. Elle n'est pas d'abord regardée comme mère de Jésus. Ou si vous voulez, l'ange Gabriel est envoyé à Marie dans sa personne. Où l'ange Gabriel exprime le regard de Dieu à l'égard de la personne de Marie. En même temps qu'on retrouve ce qu'on avait vu dans Saint Matthieu, c'est-à-dire que Marie n'est pas prise du tout abstraitement. Elle est dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph. Enfin, on sait tout. Mais elle est, j'allais dire, elle est complètement enracinée, située dans tout ce qu'elle est, et en même temps, ce qu'elle est plus que tout ça. Tout ce que dit déjà cette première phrase. En entrant chez elle, il dit « Salut, réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici que tu concevras et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. » Alors, la première dimension de cette annonce, faite par l'ange, c'est qu'il révèle à Marie son privilège. ou si vous voulez, ça, pour être plus précis, qu'il révèle à Marie la bénédiction dont elle est l'objet, parce que le mot privilège, ça a toujours l'air d'être exclusif depuis 1789. Donc, il vaut mieux parler de bénédiction. Marie, si vous voulez, est comblée de bénédiction. Et elle est bénie à un titre particulier. Et elle est nommée par l'ange, enfin, son nom, vous savez, en grec, réjouis-toi comblé de grâce, c'est kaire kekaritomene. C'est-à-dire qu'elle est presque nommée par la bénédiction qui lui est attribuée. Il ne lui dit pas, réjouis-toi Marie, tu es comblée de grâce. Ça, c'est nous qui disons ça dans le Je vous salue Marie. Il lui dit, réjouis-toi comblée de grâce. Son nom, ce n'est pas Marie, c'est comblée de grâce. Après, il lui dit, sois sans crainte Marie. C'est très impressionnant, l'ange ne lui dit pas « Réjouis-toi Marie », il lui dit « Salut, réjouis-toi comblée de grâce ». Ce qui montre bien, c'est ce qui va permettre ensuite à l'Église de parler du mystère de l'Immaculée Conception. Enfin, c'est ce qui explique déjà pourquoi Marie dit à Bernadette « Je suis Immaculée Conception ». Elle donne comme nom propre Immaculée Conception. Tout ce qu'a développé beaucoup le père Maximien Kolbe, c'est que Marie ne se qualifie pas comme étant celle qui est immaculée dans sa conception, ce que fait le dogme. Marie dit à Bernadette, je suis Immaculée Conception. Comme si c'était son nom propre. C'est ce que dit l'ange à Marie. Il dit, réjouis-toi, comblée de grâce. Et on verra, quand on regardera le mystère de l'Immaculée Conception, que c'est ça. C'est de comprendre que, j'allais dire, la personnalité de Marie a ceci de particulier qu'elle est précisément comblée de grâce. Ou si vous voulez, j'allais dire, le propre de la personnalité de Marie est de n'être que façonnée par la grâce. Alors, ça montre quoi? Ça montre que la nouvelle alliance est précédée d'une bénédiction qui regarde en propre Marie, dans sa personne. Alors, ça, nous, on peut le dire d'autant mieux, évidemment, parce que, comme toujours, tout l'enseignement de l'Église sert à mieux lire l'Écriture, à mieux l'entendre. Et à voir que j'allais dire, cette plénitude de grâce c'est déjà le salut. Oui, le salut est déjà annoncé dans cette plénitude de grâce. Donc Marie est celle qui est déjà pleine de grâce. Ou si vous voulez, la venue de Jésus est devancée par Marie. Marie est l'aurore, si vous voulez, dont Jésus est le... Marie est l'aurore. Elle n'est pas simplement, comme l'ancienne alliance, disposée dans son cœur à pouvoir répondre à Dieu. Elle est déjà elle-même préparée par cette grâce du Christ. Et c'est ça qui est très impressionnant, c'est que seule une grâce chrétienne pouvait préparer la venue du Christ. Si vous voulez, Marie est déjà accordée au don qu'elle va recevoir. Et elle ne lui est pas simplement accordée, vous voyez, j'allais dire matériellement, enfin je ne sais pas comment vous dire, vous voyez, elle n'est pas simplement capable d'accueillir l'ange. J'allais presque dire, elle est prête à l'accueillir, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose d'être capable d'accueillir quelqu'un et d'être prêt à l'accueillir. Dans un cas, vous êtes disponible, vous voyez, mais vous n'aviez pas prévu, dans l'autre cas, vous attendez. Et je crois que c'est très important de voir que dans l'ordre de l'économie divine, Marie est ceci de particulier qu'elle est, elle est prête, elle n'est pas simplement préparée par Dieu, elle est prête. Mais dire qu'elle est prête ne l'empêche pas d'être bouleversée. Enfin, vous voyez, ne veut pas dire que Elle est prête parce qu'elle est pauvre. Ce que nous révèle, quand il nous dit, elle fut toute bouleversée à cette parole, nous montre bien que la manière dont Marie est prête, c'est dans la pauvreté. C'est ce que va nous révéler la suite du texte, si vous voulez. Elle est prête parce qu'elle n'a rien d'autre que la volonté de Dieu sur elle. Donc, si vous voulez, la Vierge Marie n'est pas préparée par Dieu. Je sais bien, il y a certains pères, c'est vrai, certains théologiens même, qui vont développer les grâces de Marie, les vertus de Marie, en montrant qu'elle était déjà comblée de toutes les vertus, parée de toutes les vertus de la terre, et donc parfaitement prête dans sa perfection à accueillir Jésus. Manque de chance, ce qui est préparé à accueillir Jésus, c'est absolument pas la perfection, c'est la pauvreté. Alors, disons que Marie était parfaite dans sa pauvreté, alors ça oui, c'est-à-dire qu'elle avait rien. À ce moment-là, d'accord. Et disons qu'elle ne se servait de ses vertus que pour ne pas s'en servir à autre chose, vous voyez, qu'à attendre Jésus. Alors ça, d'accord. Si vous voyez, ce que nous révèle tout de suite l'ange, c'est que le propre de Marie, ce n'est pas d'être parfaite, c'est précisément d'être pleine de grâce, qui n'a rien à voir. Parce que être parfait, c'est vu du côté de l'homme, être plein de grâce, c'est vu du côté de Dieu. Pour vivre de la plénitude de la grâce, il ne faut pas être parfait, il ne faut rien avoir. Pour que Dieu puisse être tout. La plénitude de la grâce, elle n'est vécue qu'en celui qui n'a rien d'autre que la grâce. Et dans certains cas, la perfection est le plus grand obstacle à la plénitude de la grâce. Donc la perfection vue selon l'homme et la perfection qui dispose à recevoir la grâce n'est pas du tout la même. Relisez toute l'ancienne alliance, le propre de l'ancienne alliance, c'est de préparer l'homme à attendre de manière inconditionnelle le bon vouloir de Dieu. Ce que nous révèle en plus la parole de l'ange quand il dit « tu as trouvé grâce auprès de Dieu », ça peut s'entendre dans un double sens. D'abord au sens où Marie est aimée de Dieu, vous voyez, au sens où elle n'est pas, il n'y a pas de péché en elle. Si le péché pouvait exister en elle, enfin si le péché existait en elle, elle ne trouverait pas grâce auprès de Dieu. Parce que le propre du péché, c'est de me faire perdre. Pas l'amour de Dieu, Dieu continue de m'aimer. Mais je n'ai plus grâce auprès de lui, puisque je suis sorti d'auprès de lui. Quand vous quittez quelqu'un, vous n'êtes pas auprès de lui. Vous ne trouvez pas grâce, vous voyez, vous ne trouvez pas grâce auprès de lui. Alors c'est très beau, il dit, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Ça ne veut pas dire tu es aimé de Dieu, ça, même le pécheur est aimé de Dieu. Mais le pécheur, il ne trouve plus grâce auprès de Dieu, puisqu'il il a quitté Dieu. Mais je crois que ça veut dire aussi, parce que la traduction est fidèle hein, au grec, et c'est ce que les pères de l'Église, Saint Bernard va développer ça, que Marie attendait la venue du Messie, et que Marie attendait que soit, enfin, était prête à coopérer à cette venue du Messie. Ou plus exactement, était prête à coopérer sans condition à l'avènement de la promesse. Parce que tu as trouvé grâce auprès de Dieu, ça veut aussi dire il va répondre à ton attente. Trouver grâce auprès de quelqu'un, c'est par rapport à une demande. Ça exprime et la faveur et l'accueil d'une demande. Et voici que tu concevras et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Donc là, c'est à Marie qu'il est confié de lui donner un nom, hein, alors que dans Matthieu, c'est à Joseph. Et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père et il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles et son règne n'aura pas de fin. Donc voyez l'ordre de nouveau de Saint-Luc qui nous dit qu'il est d'abord le fils du Très-Haut et qu'ensuite il lui sera donné le trône de David son père. Donc, vous voyez, Matthieu nous révèle comment la nouvelle alliance surgit à l'intérieur de l'ancienne alliance. Luc nous révèle comment le don de la gratuité de Dieu assume l'ancienne alliance. C'est très différent. C'est-à-dire le mouvement de Luc, il est descendant. Le mouvement de Luc, c'est Dieu allant à la rencontre de l'homme. Ce n'est pas l'humanité prête à recevoir Dieu. Ça, c'est Matthieu. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et répondant, l'ange lui dit, l'Esprit Saint surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la stérile. Car rien n'est impossible de la part de Dieu. Marie dit, je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. Donc la première parole de Marie dans Luc, hein, elle n'a pas parlé dans Matthieu. C'est comment cela sera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et c'est très étonnant parce que ça correspond exactement à la parole de Marie, je suis l'esclave ou la servante du Seigneur. Cette parole de Marie, c'est une parole de serviteur. Comment cela va-t-il se faire? C'est une parole de serviteur. Mais c'est une parole de serviteur qui présuppose un abandon et une confiance à l'égard de celui qui lui parle, qui est sans limite. Mais c'est-à-dire, ça exprime la coopération à l'intérieur de l'amour, la parole de Marie. Si vous voulez, Marie est d'emblée, elle n'est ni, elle n'a aucune réaction ni de doute, ni de peur, ni d'étonnement à la mission que Dieu lui donne. Elle est étonnée de la bénédiction dont elle est l'objet. Mais cette bénédiction lui étant révélée, la mission ne la surprend pas. Ce qui montre d'ailleurs de manière très belle que Marie est bénie au-delà de sa mission. Oui, si vous voulez. Être comblé de grâce, c'est plus que d'avoir à être mère du Très-Haut. Enfin, plus. On verra comment c'est plus, d'une certaine manière. Ce que dira le théologien, Marie pouvait être... Elle aurait pu être mère de Dieu sans être immaculée. C'est exactement ce que dit saint Thomas et ce qu'a dit la tradition jusqu'à Dean Scott et jusqu'à la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception n'est pas une nécessité pour être mère de Dieu. Ce qui montre que c'est une gratuité supplémentaire, ce n'est pas une nécessité. Et c'est, on verra, c'est très impressionnant que l'Église affirme quelque chose qui n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie d'une réflexion théologique qui oblige. Presque tout ce que va, j'allais dire, affirmer l'Église dans les premiers temps à propos de la Sainte Trinité ou à propos du Christ, c'est par obligation théologique, si vous voulez, en disant « ça ne peut pas être autrement ». Ça ne peut pas être autrement que le Père, le Fils et l'Esprit Saint soient égaux. Et ne fasse qu'un dans une seule nature divine, qui ne partage pas la nature divine. Ça ne peut pas être autrement. Et la réflexion théologique des pères va procéder par voie négative en disant ça ne peut pas être autrement. Alors que là, on pourrait dire ça pourrait parfaitement être autrement. Parce que c'est ce que même beaucoup de théologiens ont pensé, ce qu'il était même permis de penser jusqu'au dogme de l'Immaculée Conception. Ce qui montre bien qu'on est dans un autre registre. Ou si vous voulez, que Marie soit comblée de grâce, ça excède la nécessité, ce qui était réclamé par le fait, par sa mission de mère de Dieu. C'est pour ça que je vous dis, Marie est surprise de cette bénédiction. Mais une fois qu'il lui est révélé l'amour dont elle est aimée, elle n'est pas surprise de la mission. Parce qu'elle y entre instantanément. Parce qu'elle est même déjà en train de demander comment. Nous, quand on nous demande quelque chose, qui manifeste qui est extrêmement grand, on commence ou bien par humilité, par dire mais qu'on n'en est pas digne. Elle ne dit pas du tout qu'elle n'en est pas digne. Alors, je ne sais pas si Saint Jean Chrysostome dit que c'est un manque d'humilité, mais elle ne dit absolument pas qu'elle n'en est pas digne. Et elle n'en a pas peur non plus. Alors que c'est quand même assez énorme ce qu'il lui dit. Parce que c'est, à la différence de Saint Matthieu, là il est beaucoup plus clair hein, quand il lui dit « Tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. » C'est quand même très explicite. Surtout qu'il est dit fils du Très-Haut et pas fils de Dieu. Parce que la créature est appelée fils de Dieu aussi. La dénomination fils de Dieu dans l'Écriture n'est pas exclusive à la filiation divine au sens de Jésus. Les enfants d'Israël s'appellent fils de Dieu, mais ils ne s'appellent pas fils du Très-Haut. Hein, l'expression Très-Haut manifeste Dieu dans sa transcendance. Donc quand il est dit à Marie fils du Très-Haut, c'est explicitement la filiation divine. Et ce qui est très impressionnant, alors, on verra ce qui est révélé à travers la bouche d'Élisabeth, c'est évidemment le fait que Marie adhère complètement à la parole de l'ange. Mais c'est très impressionnant de pouvoir non seulement adhérer à quelque chose qu'elle est humainement, qui dépasse complètement ce qu'elle était capable de comprendre humainement, mais de coopérer pratiquement à ce qu'elle croit dans sa foi. Parce que nous, dans un premier temps, on discute quant à l'objet de ce qui nous est dit. Et dans un deuxième temps, on rediscute la coopération à ce qui nous est donné, demandé de faire. Et pour croire, très souvent, on a... Alors, ou bien on fait semblant de croire, si vous voulez. La Sainte Trinité, ou bien on y croit comme un charbonnier, c'est-à-dire qu'on croit ce que quelqu'un d'autre nous dit, mais on n'a jamais cherché à y entrer. Ça, c'est pas la foi chrétienne, c'est la foi de l'Ancien Testament. Ou bien on y croit en essayant de coopérer avec notre intelligence, mais on met du temps avant d'y adhérer, à ce moment-là. Enfin, d'y adhérer pleinement. C'est-à-dire d'être vraiment dans notre intelligence et notre cœur de manière vitale face à ce que nous croyons, puisque c'est ça la foi. C'est une chose de faire confiance à l'Église qui dit des choses intelligentes, mais sans chercher à comprendre ce qu'elle dit. Premier stade. Deuxième stade, j'essaye de comprendre ce que Dieu me dit et ce que l'Église me dit. Mais j'essaye de le comprendre comme un objet, comme quelque chose de réel, pas comme quelque chose d'intellectuel. Ça demande une deuxième phase. La troisième phase, c'est d'adhérer personnellement dans mon intelligence à la réalité du mystère tel qu'il est dans son existence. D'accord ? Et la quatrième phase, c'est de coopérer pratiquement à ça. Marie, elle est instantanément dans la coopération pratique. Tu vois qu'il n'y a aucun obstacle à la réception du mystère dans son intelligence la plus personnelle. C'est pas rien. Mais ça fait tout à fait penser à ce qu'elle dira à Cana. Ça lui pousse, j'allais dire, elle, non pas qu'elle comprenne, au sens où qu'elle saisisse humainement, mais j'allais dire sa foi est instantanément plénière. Je voulais son intelligence répond au don de Dieu d'une manière qui est plénière. L'obscurité de la foi ne procure en elle aucun repli sur elle-même, alors qu'en nous, beaucoup. Le fait que la foi soit obscure est essentiellement pour nous une épreuve, cause de beaucoup de replis, de doutes et tout ce que vous voudrez, de bêtises et de plein d'autres choses. En elle, l'obscurité de la foi n'est absolument pas un obstacle. C'est presque une bénédiction. C'est une épreuve, hein, mais ce n'est pas un obstacle. C'est pour ça que Élisabeth dira qu'elle est bien heureuse dans sa foi. Bien heureuse celle qui a cru. C'est là-dessus que le Saint-Père a fait toute son encyclique sur Marie. C'est pas évident d'être bien heureux dans la foi. Nous, on est souvent bien heureux malgré la foi. C'est très rude, mais quand même, on aime Jésus au-delà de la difficulté à croire, donc on est heureux. Elle est bien heureuse dans sa foi. C'est-à-dire que l'adhésion au mystère, si vous voulez, donc ça implique l'espérance d'ailleurs, hein, a une plénitude d'engagement qui dépasse complètement l'épreuve de l'obscurité. Nous, on a toujours un manque d'espérance dans notre foi, si vous voulez. On attend d'avoir des preuves, quoi. On met le pied dans la piscine, on trouve ça froid, vous voyez, on dit au Seigneur oui, enfin bon. On discute beaucoup avant de croire en plénitude. Et on prétexte souvent le fait qu'on ne comprenne pas bien. Comme s'il fallait comprendre avant de croire. Mais évidemment, ce n'est pas facile d'adhérer corps et âme, et surtout dans l'intelligence, à quelque chose qu'on ne comprend pas. Évidemment, c'est humainement, ça nous est, nous, psychologiquement, c'est contradictoire d'adhérer de toute mon intelligence à quelque chose que je ne comprends pas. Pour nous, ça ne veut rien dire. Pourtant, c'est ça la foi. L'habitus de foi, c'est d'apprendre à adhérer de manière pleinement intelligente à ce que je ne comprends pas. C'est pour ça que c'est, ça réclame une certaine souplesse de l'intelligence. C'est pas facile de prendre à pleine main ce qu'on ne voit pas. Même chose, hein. Et répondant, l'ange lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. Est-ce que Marie est invitée à croire explicitement au mystère trinitaire? C'est difficile de le dire. Parce que l'Esprit Saint, c'est très flou dans l'Ancien Testament. C'est pas du tout précis. Quant au fait que Jésus est le Fils de Dieu, même si Marie ne comprend pas ce que ça veut dire, elle y adhère pleinement. Et elle se donnera le temps d'y réfléchir. Parce qu'on voit qu'après, elle garde toutes les paroles dans son cœur. Et la dernière chose qui est extrêmement importante, je crois, c'est l'ange considère, et on va voir que d'ailleurs il a raison, que Marie peut simultanément être pleinement engagée à l'égard de Dieu, ou si vous voulez coopérer corps et âme, puisque c'est de ça qu'il s'agit, par sa foi contemplative et par le service de sa sensibilité, de son corps, dans la maternité, peut coopérer à l'œuvre de Dieu en elle et pour les hommes, et en même temps s'occuper de sa vieille cousine. C'est ça aussi qui est très déroutant. C'est un peu comme Marie et Joseph dans Matthieu. C'est qu'on se demande ce que ça vient faire dans l'histoire. C'est pas un test, hein. C'est pas pour voir si elle en est capable. Et quand Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole », c'est à tout ça qu'elle répond. Y compris au fait d'aller servir sa cousine Élisabeth. C'est-à-dire, et c'est ça qui est très impressionnant, pour Marie, le service de la maternité à l'égard de Dieu et le service de la charité à l'égard de sa cousine ne font qu'un. Ou si vous voulez, on peut presque dire que Dieu est en train, sans qu'elle le sache d'ailleurs. Et j'allais dire sans qu'elle, d'une certaine manière. Enfin oui, sans qu'elle le sache. Il est en train déjà de la disposer à sa maternité sur l'Église. Parce que la maternité de Marie sur l'Église, c'est cette responsabilité unique qu'elle a à l'égard de la charité fraternelle. On le reverra, mais Marie n'est mère de l'Église que parce qu'elle est, après Jésus, la première responsable de la charité à l'intérieur des croyants. C'est ça être mère de l'Église. C'est déjà ce qui se passe. En elle, l'unité, c'est le premier moment où s'exerce en elle une unité plénière entre l'accueil de la sagesse ultime de Dieu, l'accueil du secret de Dieu, du secret personnel de Dieu, et le service le plus concret à l'intérieur de l'amour. C'est la même chose. Enfin, oui, c'est deux exercices, mais c'est le même mystère. Et ça, j'allais dire, on ne méditera jamais assez sur sur cette audace de Dieu d'unir ce qui le regarde en propre, lui, Dieu, qui est de communiquer de donner son enfant à Marie et d'aller s'occuper de la cousine Élisabeth. J'allais dire, même Dieu avait autre chose à faire. Le plus impressionnant, c'est tout autant du côté de Dieu que du côté de Marie. Que Marie est obéie, on comprend, puisqu'elle est servante. Mais que Dieu, si vous voulez, ait voulu unir des histoires qui n'ont pas grand-chose à faire. Vous voyez, aller aider la cousine d'Élisabeth, je veux bien, mais n'importe qui d'autre aurait pu le faire. Il aurait pu occuper Marie à autre chose, si vous voulez. Non. Mais c'est du côté de la volonté de Dieu que c'est impressionnant. C'est l'audace du regard qu'il a sur Marie. Donc, il lui demande déjà d'être celle qui va pouvoir être dépositaire de cette unité absolue qu'il y a entre la charité fraternelle et l'adoration chrétienne. Vous voyez, elle n'est pas simplement, donc on peut dire que dès ce moment-là, elle n'est pas simplement mère de Dieu. Elle est aussi responsable de l'alliance entre la présence du Christ au milieu des hommes, l'accueil de la présence du Christ au milieu des hommes et la communication de l'amour dans la charité fraternelle. C'est-à-dire qu'elle est celle qui doit accepter que cette présence de Dieu qui lui est confiée d'une manière unique soit immédiatement source d'une communication d'amour. Ou que, pour être encore même plus précis, on va le voir avec Élisabeth, que ça soit dans la présence du Christ qui lui est confié, qu'elle accomplisse son service de charité. Vous voyez, j'allais dire, les relations humaines, pas les plus insignifiantes, mais les relations humaines les plus simples qui soient, sont à partir de ce moment-là vécues en la présence de Dieu, telle qu'elle est en Jésus. Vous voyez, j'allais dire, il y a une alliance qui se fait dans ce lien entre l'annonciation et la visitation. C'est que la charité fraternelle n'est pas simplement une surabondance, voyez, au sens d'un petit truc en plus. Nous, c'est ça qu'on voit, si vous voulez. C'est que, oui, il faut d'abord aimer Dieu, puis si, au fond, on a de l'énergie en plus, on ira aimer ses frères. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on aime beaucoup Dieu, parce qu'il faut beaucoup aimer Dieu pour aimer un peu ses frères. C'est ce qu'on fait, nous. Et on fait les provisions, mais il y a des pertes, quoi. Vous voyez, c'est déjà des efforts énormes d'aimer Dieu, puis alors, il faut faire des provisions. Une fois qu'on a fait des provisions, c'est le surplus, on s'en sert pour ses frères. Bon, en réalité, on n'a rien compris à la charité fraternelle. Parce que pour peu que le bon Dieu se débrouille pour qu'on soit toujours un peu en situation limite, il n'y a jamais de provision. Alors mes frères, ils sont toujours en train de mourir de faim. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. C'est jamais sur le superflu qu'il faut piocher dans la charité fraternelle. C'est toujours dans le nécessaire. Si la charité fraternelle, c'est ce que j'ai, c'est l'énergie que j'ai encore une fois que j'ai prié Dieu, c'est complètement nul. Ce que vous donnez à vos frères, vous voyez, les miettes qui tombent de la table. Du coup, ce n'est pas la charité divine, parce que Jésus, il n'a pas donné les miettes, il a donné lui. Oui, c'est ça qui est très impressionnant, je crois. C'est que Marie ne va pas servir Élisabeth comme le petit service en plus. Parce qu'elle répond, je suis la servante du Seigneur, simultanément à la demande du service de la maternité et à la demande du service de la charité fraternelle, dans lequel il y a un abîme. Humainement, il y a un abîme entre les deux. C'est exactement ce que disait la petite Thérèse quand elle disait qu'il faut mettre le même amour à ramasser les choses dans les couloirs qu'à donner sa vie pour son frère, ou qu'à donner sa vie pour Dieu. Vous voyez ? C'est ça, enfin. Et je crois que c'est très important de voir que c'est ça dont Marie est déjà dépositrice. C'est ce qu'elle va avoir à expliquer, ce qu'elle va avoir à apprendre à vivre aux apôtres, sans doute de manière assez douloureuse d'ailleurs, pendant le temps de Pâques. Parce que pour les apôtres, apprendre à comprendre qu'ils avaient d'abord à aimer Jésus d'une manière complètement nouvelle et qu'ils avaient à s'aimer les uns les autres comme ils aimaient Jésus, ça, ils n'avaient pas compris, les apôtres. Et qu'ensuite, ils n'avaient pas simplement à s'aimer les autres comme ils aimaient Jésus, mais ils avaient à aimer même ceux qui leur lançaient des pierres. Donc, je crois que c'est très important de voir que la vocation de Marie comme mère de Dieu et la responsabilité de Marie à l'égard de la charité est unie. On peut les distinguer, on ne peut pas les séparer. Alors, évidemment, il y a un ordre. On est d'accord. Tu lui demandes d'abord d'être la mère de son fils avant d'aller auprès d'Élisabeth. Mais c'est pas parce qu'il y a un ordre qu'il y a une diminution. Il y a un ordre entre l'adoration et la charité fraternelle, mais il n'y a pas une diminution. C'est le même amour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins pour les frères. Il y a une priorité, mais ça ne veut pas dire qu'il y a moins. Nous, c'est humainement. Humainement, quand il y a une priorité, il y a moins pour le second. Ça, c'est humain. Propre de la grâce, c'est précisément de permettre que même ce qui est en second est autant que ce qui est en premier. On regardera cet après-midi la visitation et puis le Magnificat.